nos différences. Il est 19h sur le 101.5 de Radio G et l'heure que vous voulez si vous écoutez ce podcast sur le www.radio-g.fr. Seb au micro, on va passer ensemble une heure et on va parler de Maiko, on va parler de voyage et de relations humaines, on va parler de muscles, on va parler de problèmes mentaux et on va parler aussi de photographie. N'oubliez pas que si vous voulez, vous pouvez nous retrouver sur le chat du site tout de suite. Mais en avant, générique.
Sauvez-vous tous !
Nouvelle urgente, Batman au micro. Avis à tous nos amis, message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman. Et venons-en au fait.
Trompez vite! Tu n'es pas chez toi ici!
Justement! Les touristes de bord!
Nous pouvons modeler votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
Tout ce que vous allez voir et entendre sur le 101.5 de Radio G. Bienvenue dans La Case de Seb, l'émission qui, par le truchement des ondes radiophoniques, va projeter dans votre cerveau les plus belles images de la BD franco-belge, du manga et du comics. Comme je l'ai déjà dit, je suis Sébastien et je suis Seb, surtout, ici. Et on va passer une heure ensemble, une heure où on va bien s'amuser. Quoi dire de plus? Je ne sais pas. Voilà. Bonne soirée à tous. Non, je plaisante, bien sûr. On va parler de pas mal de choses. On va parler de déjà de mon week-end, puisque j'ai passé une partie de mon week-end à travailler pour vous. J'ai été à l'Angers Geek Fest, un festival qui a lieu dans le coin. Si vous ne connaissez pas, du coup, l'Angers Geek Fest, c'est un endroit où il y a des gens qui vont rencontrer d'autres personnes de la culture geek. Donc, c'est un festival de culture geek. Il a eu lieu sur 2 jours. On a pu rencontrer beaucoup de choses, beaucoup de gens. J'ai fait quand même pas mal de kilomètres. J'ai subi du son, pas mal de son, de choses différentes, puisque c'est un endroit qui est quand même assez bruyant, mais qui est quand même hyper agréable à découvrir et à rencontrer. Sur place, on y rencontre aussi beaucoup de personnes qui sont cosplayées. Alors, si vous ne connaissez pas le cosplay, ce sont des personnes qui sont déguisées en personnages d'animé, en personnages de bande dessinée, en personnages de ce qu'ils veulent, et qui passent toute leur journée à incarner ce personnage. Et c'est vraiment quelque chose de franchement super sympa à découvrir. Donc l'Angers Geek Fest est fini, j'avais prévu de vous en parler directement ce soir, mais un petit contretemps fait que je n'ai pas la possibilité de vous faire écouter les interviews, donc ce sera pendant 15 jours, et j'ai quelques interviews vraiment sympathiques que j'ai réalisées pour vous. Voilà. Je vais également vous parler de plusieurs petites choses. J'espère que vous rendez compte que Fabien n'est pas là, puisque Fabien est en Corse, donc j'espère qu'il a beau temps. Je lui souhaite de bonnes vacances. Je pense que c'est des vacances qu'il a pris. Bref, on a commencé à le faire de manière un peu plus régulière. On parle des suites de séries. On n'ira pas forcément très très loin, mais c'est aussi l'occasion de vous reparler de séries qui sont sorties ou qui vont sortir. Je voulais vous reparler de Ma petite sœur est un chaton. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est un manga où un jeune humain a été adopté par une famille de chats et sa petite sœur est un chaton. Elle parle pas, elle a des comportements entre le chat et l'humain, et c'est tout mignon, c'est tout kawaii, et le tome 2 est sorti là très récemment. Et du coup, c'est l'occasion de vous en reparler. C'est publié chez Nobinobi, c'est publié par Senko. Je n'ai pas revérifié combien il y avait de tomes Je vais m'en occuper pendant que je vous parle. Mais c'est un manga qui est vraiment très mignon, puisqu'on a beaucoup de chats, on a beaucoup de kawaii, on a beaucoup de codes du shoujo, en fait, dans ce manga, et c'est plutôt cool, ça passe très très bien. C'est assez frais, c'est pas très exigeant, c'est très bon enfant, ça passe... ça plaît à tout le monde. C'est une série qui est en 3 tomes au Japon. On est le tome 2 en France, donc le 3e tome clôturera la série. C'est une série qui est pas très récente, enfin pas très récente. Elle date de 2019 sur la partie japonaise et elle est sortie début de cette année en version française. Donc voilà. Donc petite série courte, très mignonne, très kawaii, plutôt destinée à un jeune public. Après, ça éclaire quand même sur les différentes relations familiales. Et là, ce tome 2 est toujours dans la même veine. On voit un petit peu les différentes relations avec un peu plus quand même de chats anthropomorphes que dans le tome 1, je trouve. Après, c'est plus ce versant-là que le versant de Neneko, de Nekota, pardon, le jeune garçon, qui était un peu plus présent dans la version dans le tome 1. Voilà, à partir de 8 ans pour le conseil éditeur. Autre chose qui m'avait beaucoup plu, vous connaissez One. Si vous connaissez pas One, c'est que vous avez passé pas mal de temps en fait à hiberner, puisque One en fait c'est un auteur assez prolifique, puisqu'on lui doit One Punch Man, on lui doit Mob Psycho 100, on lui doit encore un autre truc que j'ai perdu. Et je voulais vous parler de la suite de Versus, qui est dont le 3e tome sort là, il vient juste de sortir. Pour rappel, l'histoire de Versus, c'est un monde médiéval fantastique où des humains sont en train de se faire bâcher parce qu'ils ont beaucoup de mal à lutter à armes égales avec des armées démoniaques, des armées de démons. Et en désespoir de cause, ils vont envoyer des héros lutter contre les généraux démoniaques pendant que des mages vont créer un portail pour pouvoir... je crois invoquer de l'aide, oui c'est ça, pour invoquer de l'aide d'un monde extérieur. Et c'est ce qui arrive, il y a des gens qui arrivent en armure mécanisée très très fort et qui vrillent toute une escouade de démons. Et petit retournement de situation, il y a ces gens qui viennent d'arriver en super armure pour sauver les gens qui leur disent bah, nous on a besoin de votre aide. Et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait il y a plein de mondes qui ont fusionné ensemble. Il y a, je crois, 12 de mondes qui ont fusionné ensemble. 12 mondes qui ont fusionné avec le monde d'origine et qui sont chacun dans cette situation-là de des gens désespérés qui ont voulu faire un appel à l'aide d'une manière ou d'une autre. Technologie, magique, intervention divine. Et bah c'est là où on se retrouve à la fin du tome 1. Et le tome 2, en fait, va nous montrer un petit peu comment la résistance va s'organiser, puisque les gens, les humains, se sont rendus compte d'une chose assez simple, c'est que les différents ennemis naturels qu'ils ont peuvent être potentiellement la manière de se sauver et de sauver l'humanité si on arrive gentiment à les monter les uns contre les autres. Les tomes 2 et 3 vont développer un petit peu ça, enfin même beaucoup ça, parce que c'est vraiment très très intéressant, c'est vraiment hyper cool à lire. À la manière d'un Game of Thrones, à la manière d'un One Punch Man, on va, et c'est sans doute la grande grande force de One, c'est d'arriver à nous captiver et à nous faire découvrir des personnages de manière très... très détaillé, il y a un storytelling qui est très fort et il y a une écriture de personnages qui est vraiment très cool pour ne pas nous les faire garder en vie très longtemps. Dans One Punch Man, on a des méchants où on va nous développer l'arc narratif pour qu'ils perdent en un seul coup contre le héros. Et ben là, on va avoir des personnages qui sont plutôt pas mal développés et qui malheureusement vont pas forcément survivre très longtemps dans ce monde hyper dangereux et hyper violent. Donc voilà, Versus, c'est vraiment très très cool. Graphiquement en plus, c'est vraiment très très beau. Il y a Kyotaro Azuma qui fait des détails, il y a des décors, les personnages sont tous très charismatiques et très détaillés. lorsqu'on a fait la chronique du premier tome, on se posait la question en fait de comment il allait réussir à maintenir une cohérence graphique avec tout un tas d'univers, parce que quand on va faire de l'heroic fantasy, on va avoir plutôt un style graphique d'une certaine manière. Des mechas, bah, ça se dessine d'une autre manière. Des monstres, façon de l'attaque des titans, ça se dessine d'une autre manière. Et là, en fait, bah, Kyutaro Azuma est tout à fait capable de maintenir une très bonne qualité de dessin, des séquences d'action qui sont très très fortes et qui fonctionnent très très bien, tout en s'adaptant à ces différents styles graphiques qui peuvent être exigés ou ces différentes façons de dessiner des choses. Et ça marche très très bien. Donc toujours aussi passionnant, le tome 3 est disponible directement chez votre libraire préféré, c'est Pika Édition qui édite ça. Voilà. Pour l'âge, je vous conseille pas avant 16 ans, entre 14 et 16, vous voyez en fonction des différents ados, mais parce que ça, c'est quand même assez violent, il y a des gens qui se font manger, hein. Là on est plutôt dans l'arc, avec le tome 2 sur l'arc l'attaque des titans, et puis le tome 3 je vous laisserai le découvrir parce qu'il est tout frais. Donc voilà, n'hésitez pas. Versus, scénario de Wan, manga, le dessin de Kyutaro Azuma et une composition de Boz, et c'est chez Pika Edition et c'est vraiment trop trop bien. Ce que je vous propose, c'est de découvrir, de faire une petite pause musicale. Je vais vous mettre un petit peu de musique shonen, puisqu'on va partir vers My Hero Academia avec le générique Odd Future d'Uverworld. On se retrouve tout de suite après sur le 101.5 de Radio G. Alors ça peut pas faire ce que je veux faire. Super. Hop. Ok, bon. Je vais faire autrement. Puisque j'ai un petit souci technique. En fait, la platine, elle veut pas faire ce que je lui demande. Ce qui est dommage. Mais c'est pas grave. Parle en même temps. Donc, si vous avez lu Versus, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. C'est vraiment très cool parce que c'est vraiment un. C'est aussi ça qui peut nous faire discuter. C'est que ce sont des mangas qui sont vraiment très très cool. Allez, on se retrouve tout de suite après Odd Future.
Petite. You're right up, you excite. Yeah.
Everworld avec Hot Future sur le 100.5 de Radio G. Vous écoutez toujours la case de Seb. Ah, moi, c'est un, le générique de My Hero Academia. Je vais être super cool. J'adore ça. Ils sont vraiment très bons. Ils sont vraiment très agréables. Et puis, répondre à un message dans le commentaire, non, je ne chante pas les génériques, surtout quand ils sont en japonais. Parce que je parle pas japonais et puis que c'est pas une bonne idée de m'écouter chanter. Ça, vous l'apprendrez très très vite. Oula, j'ai fait un truc que j'aime pas faire à la radio. Bon, bref. De quoi je vais parler tout de suite? On va rester dans le fun, on va rester dans quelque chose d'assez cool. Je vous ai parlé de l'envie de faire des trucs un peu what the fuck. Je voulais vous faire un générique, je n'arrive pas à faire le générique. Donc je vais, j'ai pas eu le temps pour être hyper transparent. Donc je vais ne pas vous faire de générique what the fuck, mais je vais quand même vous parler d'un truc what the fuck. On l'a brièvement abordé avec Fabien l'autre fois, je suis tombé sur un manga qui s'appelle Power Antoinette. C'est adapté d'un light novel d'Akinosuke Nishiyama, c'est dessiné par Shima, et c'est il y a le chara-design de Misei Ito. C'est un manga qui est publié aux éditions Doki Doki, dans la collection Seinen. Ça a été sorti en 2022 au Japon et en France en 2023. C'est une série qui est complète en 3 tomes. Et accrochez-vous bien. Alors, si vous êtes historien, prenez un doliprane, prenez quelque chose comprimé pour éviter de nous faire une syncope, parce que je pense que je vais un petit peu vous perdre. Pourquoi c'est un manga what the fuck? Alors déjà, c'est assez simple, puisque ça nous parle d'une uchronie. Qu'est-ce que c'est qu'une uchronie? Je vous explique rapidement. Une uchronie, c'est un moment, c'est une histoire qui se déroule dans un futur alternatif, où à un moment précis, l'histoire a changé, suite à un élément qui ne s'est pas déroulé tout à fait comme prévu. Alors je vais peut-être un peu loin en disant que c'est une uchronie, puisqu'il y a des éléments qui nous font dire qu'on est vraiment dans un autre univers que le nôtre. Mais imaginons quand même que la Révolution française, donc Louis XVI, si je ne me trompe pas, va être décapité, et puis on emmène son épouse Marie-Antoinette. Marie-Antoinette qui vient d'une région voisine, je laisse les profs d'histoire compléter. Et au moment où Marie-Antoinette va se faire passer la tête à la guillotine, elle arrête la lame de sa main en faisant des trous dans la lame de la guillotine. Vous dites, ah là là, elle est super forte, elle fait des trous dans du métal. Ouais, ouais, elle est super forte. Parce que là, elle se relève, elle se redresse et elle bande tous les muscles. Vous avez des biceps, des deltoïdes, vous avez des pectoraux, vous avez des abdos. Là, vous avez une Marie-Antoinette bodybuildée qui se redresse et qui dit, ça, ce n'est pas la France que j'aime. La France, c'est moi et ce sont ces muscles-là. Et elle va tataner un petit peu tous les gens qui sont en face, qui ont décidé de la décapiter à la base, et elle va s'enfuir en compagnie de Charles-Henri Sanson. Charles-Henri Sanson, surnommé le monsieur de Paris, bourreau de son état, qui passe d'ailleurs plus de temps déguisé en petite fille qu'en mode homme, mais bon, c'est un autre problème, on y reviendra tout à l'heure. Et ils vont s'en aller, Marie-Antoinette, gardant toujours cette lame de guillotine dans les mains. Et c'est là où c'est complètement what the fuck, parce que on est sur un manga qui imagine que les Habsbourg dont fait partie le nom de famille d'origine de Marie-Antoinette vouent un culte aux muscles. Et Marie-Antoinette va renverser la Révolution française avec les muscles qui incarnent la France telle qu'elle l'imagine. Et elle va d'abord commencer par essayer de récupérer ses 2 enfants qui ont été emprisonnés et qui, eux aussi, vouent un culte aux muscles. Vous le savez, dans la caisse de Seb, on essaie de vous parler de choses qu'on aime bien. Alors, on va essayer de parler de what the fuck et de what the fuck qu'on aime bien. Parce que trouver des trucs barrés et nuls, je pense qu'on est capable. Je pense que c'est même plus facile à trouver. Là, Power Antoinette, c'est bien. C'est étrangement ultra bien. C'est que 3 tomes, hein, mais c'est graphiquement très joli, anatomiquement parlant, puisqu'on voit beaucoup de muscles, je pense que c'est bon. Après, je n'ai pas fait d'études d'anatomie, donc je ne veux pas me lancer là-dedans. Et c'est fun, c'est frais. Ceux qui connaissent le what the fuck, la façon de faire des trucs un peu barrés, vous savez que quand on veut que ça fonctionne, il faut pousser le curseur à fond. Et là, on pousse le curseur complètement à fond. On pousse vraiment ce côté musculaire à balle. Et c'est complètement... Je vois pas comment dire, c'est complètement barré, c'est complètement ouf. Graphiquement, c'est très très beau, c'est bien travaillé, on a des scènes de combat, puisque bah, qui dit muscle dit baston, qui sont lisibles, qui sont originales, parce qu'on ne se contente pas de mettre des bourre-pifs, hein, attention, et on a des tenues qui sont assez dingos. Imaginez une personne ultra musclée, mais dans une robe ultra féminine. Eh ben, ça marche, c'est ça Marie-Antoinette, avec le chapeau sur la tête, hein, attention. Et c'est vraiment un manga que j'ai bien aimé, parce que c'est ultra drôle. Il y a des moments complètement barrés. Il y a pas que du muscle tel qu'on l'imagine. À un moment, il y a un personnage, son muscle, c'est son cerveau. Et c'est juste barré, c'est juste fun. Je pense qu'on a quelques petits éléments d'histoire qui sont dedans. Alors attention, si vos enfants lisent ça, alors il y a un peu de violence, donc 12-13 ans, je pense que c'est pas mal. Si vos enfants lisent ça, leur demandez pas de faire un compte-rendu d'histoire. Le prof là, en PLS en train de pleurer sur le bord de la table, ça posera vraiment... c'est pas du tout très très fait historique. Mais on apprend quelques petits éléments, notamment le surnom donné par Marie-Antoinette à son fils, qui apparemment est sourcé. Et c'est cool. Moi, je vous dis, oui, je valide ce Power Antoinette, parce que c'est vraiment très fun, c'est vraiment très cool, c'est très beau. Il y a des personnages historiques qui sont retravaillés, on découvre le Chevalier d'Éon, on va retrouver la Comtesse du Barry, et voilà, ça marche, c'est cool, c'est très efficace. 3 tomes, ça ne vous ruine pas, moi je les ai trouvés en occasion à vraiment pas trop cher. Et ça vous prendra pas trop de place dans les étagères. Donc voilà, Power Antoinette, publié aux éditions Doki Doki, sur un light novel d'Akinosuke Nishiyama et des dessins de Shima, avec un chara design de Misei Ito. Voilà, allez-y, c'est cool, c'est fun, et ça fait pas de mal. Voilà. De quoi on va parler maintenant? J'ai le choix. Soit je reste sur du manga, soit je vous emmène ailleurs. Je vais peut-être vous emmener ailleurs, mais pas tout de suite. Je vais vous faire voyager. Je vais rester sur la partie manga. Allez. Mais d'abord, on va faire une pause musicale. Ouais, je suis comme ça, je vous fais du teasing de fou. Vous le savez, j'aime beaucoup Baby Metal. Je les défends depuis que j'ai découvert leur premier morceau, même si je trouve qu'il y a une énorme progression qui a été faite depuis leur début. Et je vous propose qu'on écoute From Me to You featuring Poppy sur le 101.5 de Radio G. On se retrouve tout de suite après.
You Radio G. www.radio-g.fr.
Vous êtes de retour dans la case de Seb. J'ai à refaire le générique d'intro. Vous venez d'écouter From Me to You de Baby Metal avec Poppy. J'espère que ça vous a plu. Moi, je kiffe toujours autant et ça décrasse un petit peu les oreilles. Je vais vous emmener maintenant dans un endroit où on va avoir quand même beaucoup plus de douceur. Je vais vous emmener au Japon, à notre époque, et vous allez avoir... Je viens de bugger sur un truc que j'avais pas préparé. Je vous emmène au Japon à la découverte des Maiko. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une Maiko, c'est une apprentie Geiko. C'est le nom qu'on donne aux geisha dans la province de Kyoto. Puisqu'ils ont un parler qui est un petit peu différent, mais une geiko et une maiko, une geiko et une geisha, ce sont grosso modo la même chose, avec quelques petites variations. Je vais déjà vous raconter une petite histoire. J'aime regarder les séries télé et j'aime manger. Et du coup, quand je vois une série qui s'appelle Makanai dans la cuisine des maiko, je me dis c'est cool, on va m'apprendre, on va me faire découvrir dans ce documentaire culinaire ce que mangent les Maiko, les séries, les fameuses apprentis Geiko. Et puis je l'ai laissé comme ça dans ma liste des trucs à regarder et j'ai mis un petit moment avant de m'y intéresser. Et puis j'ai commencé à regarder. Et puis je me suis dit, ah, c'est pas du tout ce que je voulais. Moi, je voulais une série qui me parle de nourriture. Et puis en fait, ça me parle de nourriture, mais ce n'est pas un documentaire. C'est une série qui nous raconte comment deux jeunes filles ont désiré devenir des Maiko, sont montées à Kyoto pour pouvoir devenir Maiko, et comment l'une d'entre elles va devenir une Makanai, qui est la cuisinière attitrée des Maiko. C'est une série que j'ai dévorée parce que j'ai trouvé ça vraiment très très bien. C'est une série qui a beaucoup d'avantages. Donc, c'est une série tranche de vie, c'est une série qui est posée, qui est vraiment très chill, cool, qui nous met en avant plein de petits bonheurs, qui nous met aussi beaucoup en avant la nourriture. Ça aurait été quand même dommage de parler d'une cuisinière sans mettre en avant la nourriture. Mais il y a un côté vraiment très posé, très cool. C'est une série qui va vraiment se satisfaire de la beauté des choses du quotidien. Graphiquement, c'est très beau, c'est très léché. Il y a un gros choix qui est mis en avant sur la partie graphique, la partie visuelle, les angles de caméra. Il y a plein de choses qui sont très très beaux, c'est très posé et c'est ultra chill. Si vous passez un mauvais moment, une mauvaise journée, regardez un épisode de Makanai, parce que c'est vraiment, ça va vous remonter le moral tellement ce sont des petits bonheurs vraiment très très cool. Puis vous allez me dire, mais Seb, t'es mignon, mais là tu nous parles d'une série télé, on parle pas de BD ou de manga ou de comics dans ton émission à la base. Si, rassurez-vous, j'y viens. Parce que une fois que j'ai eu fini les 9 épisodes de la série qui est encore disponible sur Netflix, je me suis dit je vais creuser un petit peu, je vais voir un petit peu qui sont les acteurs, les actrices, quand est-ce que c'est sorti. Et puis, au détour d'une page Wikipédia, j'apprends une chose, c'est qu'en fait, Makanai dans la cuisine des Maiko, c'est adapté d'une série de manga. Et vous avez vu, je suis balèze, hein. Et ça s'appelle La Maison des Maiko, qui est une série qui a été publiée chez Noévé Graphics, qui est actuellement limitée à 5 tomes en France. C'est-à-dire qu'il existe 29 tomes au Japon. C'est une série qui est un petit peu ancienne au Japon, puisqu'elle est sortie au Japon en 2016, et la version chez Noévé Graphics a débuté en 2022. Et est actuellement coincé à 5 tomes, puisque voilà, on est un petit peu dans la certitude de Noévé Graphics. Je me suis procuré du coup très rapidement les 5 tomes, étant tombé dingo de la série animée, je me suis dit, bah, la série live action, parce que c'est pas un dessin animé, il y a aucune raison que la série papier ne soit pas bonne, et c'est effectivement le cas, la série version papier, elle est vraiment très très bonne. Déjà, je vais vous parler de la couverture, de l'édition, qui est très cool. Je suis assez fan, en fait, de ce que fait Noévé Graphics sur ses ouvrages. Et là, on a une couverture sur tous les tomes qui est couleur crème. Et on va avoir à chaque fois une tonalité colorée qui va prendre la tranche et le bord gauche, le bord extérieur du manga, et avec une belle illustration couleur au milieu. En haut, on a le titre et puis on a le numéro de l'ouvrage. Et ce qui rend l'ouvrage encore plus fun, c'est que plus fun, c'est pas vraiment le côté, mais plus qualitatif, plus agréable à regarder, c'est que là où on a beaucoup d'éditeurs qui vont jouer avec des vernis sélectifs, là, on a littéralement un embossage des titres, on a un embossage de certains personnages et de certains éléments de la couverture qui donne un aspect hyper doux, hyper agréable à cet ouvrage et un côté très, très tactile. Niveau histoire, ça va être peu ou prou la même chose. On va suivre deux personnages qui sont à Kyoto et qui ont pour ambition de devenir Maiko. L'une d'elles va très vite se rendre compte qu'elle n'est pas faite pour ça et elle va, par opportunité et aussi parce que c'est aussi son appétence, prendre la place de la Makanai, donc la cuisinière des Maiko, pour qui a des petits soucis de santé et qui va se mettre à cuisiner pour les Maiko et tout en accompagnant une de ses compagnes, Sumire, qui elle va devenir sans doute la Maiko la plus prometteuse de l'année en cours. De la même manière, c'est de la tranche de vie. C'est un petit peu plus scénarisé, c'est scénarisé différemment puisqu'on va avoir des flashbacks de manière un peu plus poussée dans le manga que dans la série. C'est vraiment ultra agréable. Graphiquement, c'est tout mignon, tout choupi, c'est tout rond. Il y a beaucoup de détails parce qu'il y a beaucoup de décors et puis les costumes des Maiko, si vous en avez déjà vu, c'est des choses qui sont avec beaucoup de motifs, beaucoup de froufrou, beaucoup de petits détails et je trouve ça très très propre, c'est très efficace. C'est vraiment quelque chose que je trouve très agréable à lire. C'est des tomes qui sont assez courts et je n'ai pas fait attention, c'est des 140 pages. Donc on a l'impression d'avoir un ouvrage qui est assez petit et assez fin, mais c'est vraiment quelque chose de très cool à lire, très agréable. Encore une, comme la série, c'est très chill. Il y a pas de violence, il y a pas d'action, c'est pas ça prend son temps et c'est vraiment très très sympa à lire. Petit bonus sur la version papier, il y a un petit lexique puisque le langage des Maiko est un peu particulier. On a pas mal de petites infos qui sont disséminées pour pouvoir comprendre un petit peu de quoi ça parle. Il y a un glossaire qui vous permet justement de comprendre certaines intonations et qu'on retrouve des intonations qu'on retrouve beaucoup si vous regardez la série en VO. Il y a des fois des petits moments où vous dites attends, pourquoi il répète ça tout le temps, c'est quoi ce petit mot là qui respecte tout le temps, et du coup c'est vraiment très très cool. Je précise que c'est pas un partenariat avec Noévé Graphics, hein, puisque du coup je les ai achetés de mon côté. C'est vraiment une chronique libre, mais que je vous invite vraiment à les trouver. Peut-être frustration parce que effectivement pour l'instant il n'y a que 5 tomes et on ne sait pas si on aura d'autres tomes à la suite. Mais voilà, c'est plutôt cool. Je précise aussi Power Antoinette. Voilà, je l'ai dit dans la chronique, mais c'est des mangas que j'ai achetés moi-même, qui ne m'ont pas été envoyés par l'éditeur. Voilà. Donc petit point aussi parce que la maison des Maiko c'est Daiko Koyama, donc publié chez Noévé Graphics. Ce qui qui est intéressant à avoir, c'est qu'en fait, Aiko Koyama voulait rétablir un petit peu une vérité historique, puisque suite à Mémoire d'une Geisha, le film qui a eu beaucoup de succès, la confusion entre ce qu'est vraiment une geisha et ce qu'on peut sous-entendre dans le film le frustrait quand même pas mal. Et du coup, il a voulu, grâce à la maison de Maiko, remettre un petit peu en avant en fait ce que c'est vraiment une Maiko, pour qu'il n'y ait pas de confusion dans l'esprit des gens. Donc voilà, n'hésitez pas à y aller, c'est vraiment un manga qui est vraiment très très cool. Et puis c'est vraiment un truc que j'ai vraiment kiffé. Voilà, voilà. Et puis la série Netflix, voilà, allez-y, 9 épisodes d'une heure, ça va pas vous frustrer, sauf si effectivement vous aimez, parce que quand la série se finit, ben on a envie qu'une chose, c'est d'en avoir d'autres. Bref, je vous propose de refaire une petite pause musicale. Je suis désolé, j'ai mis des trucs un petit peu énervés ce soir. Là, vous allez pouvoir écouter Bring Me the Horizon de Limousine avec Aurora. Aurora j'ai été très surpris de la découvrir là-dedans, puisqu'elle a une petite voix assez douce. Et là, c'est un petit peu énervé, mais on se retrouve tout de suite après sur le 101.5 de Radio G. Drag me down some more. Get me. Sacrifice of shame, soul crushing, going back around the turn again. Yeah. Cut my teeth on a diamond till it's rough. Feeling good, but it's never good enough. Got a bellyache crawling in my guts again.
www.radio-g.fr.
Allez, vous êtes de retour dans la case de Seb. Vous venez d'écouter Bring Me The Horizon de Limousine en duo avec Aurora. On va changer complètement de registre. On a été sur des trucs plutôt chill et cool depuis tout à l'heure. Là, on va parler de santé mentale avec Ça va aller, Mademoiselle de Blandine Denis, publié aux éditions Lapin. Alors, comment dire ? C'est un ouvrage qui parle de santé mentale, qui parle de l'autrice et de son expérience lorsqu'elle a décidé de se faire interner en hôpital psychiatrique. C'est un journal des quelques jours qu'elle a pu passer là-bas, où elle va montrer en fait l'envers du décor et ce que c'est d'aller en hôpital psychiatrique. J'ai trouvé ça assez c'est saisissant. Dès la première page, une des pages un petit peu après, on voit l'héroïne qui arrive à l'accueil. La personne à l'accueil lui dit « Bonjour, c'est pourquoi ?» et elle répond « Pour de l'aide ». Et j'ai trouvé ça, mais alors, ça est saisissant en fait, parce que c'est un petit peu, comment dire, compliqué de demander à l'aide à notre époque. Et là, on l'emmène un petit peu plus loin, et très vite, en fait, les infirmiers vont lui dire bah, « Écoutez, ça va aller, mademoiselle. » Et on va découvrir effectivement tout l'envers du décor d'un hôpital psychiatrique. Comment se passent les journées dans un hôpital psychiatrique, quelles sont les règles et les consignes qui font qu'on va pouvoir passer un moment dans les meilleures conditions possibles, et comment ça peut être aussi perçu par un patient qui vient de soi-même hein, pour lutter contre des addictions, contre des TOC qui sont de plus en plus prenants. Et à quel point parfois les règles qui sont mises en place pour nous empêcher en fait de nous autodétruire peuvent aussi être un petit peu contre-productives, puisque à travers le personnage principal, on va quand même découvrir qu'un séjour en hôpital psychiatrique, c'est quand même beaucoup d'ennuis, beaucoup de questionnements internes qu'on peut avoir. Et puis beaucoup de questionnements aussi sur la médication qu'on nous inflige, quels sont les effets de la médication, quelles sont aussi les différentes variations, puisque un médicament seul ne va pas soigner tout le problème, et il va falloir des fois avoir un médicament pour soigner tel petit souci, mais qu'il va falloir aussi soigner les petits soucis et les effets secondaires de tel médicament avec un autre médicament. Et qu'au final, pour aller mieux, c'est toute une question de dosage et de paramètres à prendre en compte dans une énorme complexité, puisque il y a les paramètres de la patiente, il y a les paramètres des médicaments, il y a les paramètres des autres patients, il y a les paramètres des autres plannings. Tout ça, c'est à prendre en compte, et c'est compliqué en fait à appréhender ça, nous en tant que personnes qui n'avons pas fait de séjour en hôpital psychiatrique. De se dire comment ça peut se passer, c'est quoi tout ça en fait. Donc c'est hyper intéressant, c'est hyper instructif, c'est du vécu, donc ça reste quand même un petit peu subjectif, parce que forcément c'est la vision de l'autrice sur l'hôpital psychiatrique, mais c'est hyper intéressant. Elle nous fait découvrir de nombreux patients, elle fait découvrir de nombreux parcours autres que le sien, mais qu'à travers son prisme, bien entendu, puisque c'est la façon dont elle les perçoit. Mais c'est très très intéressant à découvrir. Graphiquement, je ne connais pas, je n'ai pas lu d'autres ouvrages de Blandine Denis, mais ce que je trouve aussi intéressant, c'est qu'on a un côté un peu, et je pense que c'est volontaire, un côté un peu décousu, un côté un peu simple, comme si c'était fait à la volée, Je veux pas dire que c'est pas travaillé, c'est loin de moi l'idée de vouloir dire ça, mais il y a ce côté très lâché. On a l'impression que c'est un dessin que on pourrait faire, et alors que non, c'est clairement non. Et il y a ce côté qui a l'air déstructuré, puisqu'on va avoir des grands textes, on va avoir des moments où on a l'impression d'avoir les voix parasites qui vont pouvoir prendre la place. Ça va s'inscrire avec beaucoup de textes qui vont prendre la place sur le dessin. Il y a des dessins qui ont l'air un petit peu désordonnés, avec des personnages avec des bras un peu en guimauve, souples, avec beaucoup de choses rajoutées. Mais c'est tout de suite à chaque fois très évocateur de ce qui peut se passer dans la tête de quelqu'un qui va pas bien. À aucun moment on se pose la question. Il y a des passages qui sont un peu plus fantasmagoriques. Il y a aussi des passages qui sont sur d'autres tonalités colorées. J'en ai pas encore parlé, mais il y a des passages en orange par exemple qui sont plutôt des retours en arrière sur le vécu de l'autrice qui va nous expliquer voilà par où je suis passé avant d'en arriver là. Et ça donne des moments qui sont franchement hyper sympas. Au niveau couleur, c'est principalement des aplats de couleurs, mais toujours des teintes bleues, oranges, qui reviennent très souvent. Il y a aussi pas mal de gris, mais ça reste des teintes qui sont assez dominantes sur le bleu, le orange, le gris. Et puis on va avoir ce que bleu, c'est la tenue du pyjama hein, de qu'on met quand on va en hôpital psychiatrique, ce qui fait que tout le monde pourra se rapprocher des schtroumpfs, tiens d'ailleurs. Je me fais des petits commentaires tout seul. Bref, un ouvrage très intéressant, très instructif, qui montre aussi à quel point c'est compliqué de soigner les gens qui ont des problèmes psy. Simplement compliqué aussi juste d'arriver à mettre un diagnostic sur un problème psy. Là, en l'occurrence, on nous en évoque plusieurs, pour quelqu'un qui n'est pas calé sur le sujet, je peux vous avouer que des fois, me dire, tiens, mais pourquoi celui-là, c'est pas le même que celui-là? Eh bien, c'est simplement des fois les questions de dosage, de puissance, et de savoir où se situe le patient sur le spectre, sur la partition, si je pourrais dire. Si on est plutôt sur une gamme haute, une gamme basse, eh ben on sera plutôt dans telle pathologie ou telle pathologie. Et si on est entre les deux, on peut arriver à être sur un trouble un petit peu border. C'est des choses que je ne connaissais pas. Et du coup, ça m'a beaucoup instruit sur les problèmes psychologiques. Et voilà, n'hésitez pas à consulter des gens plutôt que d'aller avant d'avoir besoin d'aller en hôpital psychiatrique. C'est pas qu'il faut pas y aller, hein. C'est juste que ce sont des choses qui sont un petit peu complexes à appréhender. Et je dis pas que ça fait du mal, mais je pense que l'hôpital psychiatrique ne fait pas que du bien, même si on a besoin des professionnels qui seront là-bas. Voilà. J'espère que je vous ai pas plombé l'ambiance, mais c'est hyper intéressant à lire. Ça s'appelle Ça va aller mademoiselle, c'est de Blandine Denis et c'est publié aux éditions Lapin. Voilà. Pas très très joyeuse tout ça, mais c'est pas très très grave. Ça fait partie des choses qui sont qu'il faut au moins lire une fois de temps en temps. That's all, folks. Et oui, vous venez de l'entendre, c'est Porky qui annonce la fin de l'émission. Je vais faire un petit récap de tout ça. On a parlé de la sortie des suites de Versus. Les tomes 2 et 3 sont déjà disponibles, publiés aux éditions Pika, avec un scénario de Wan et un dessin de Kyutaro Azuma. On a parlé également du tome 2 de Ma petite sœur est un chaton, publié chez Nobby Nobby. Et scénarisé, réalisé, dessiné par Senko. On a parlé de La Maison d'Emaiko, publié chez Noeve Graphics, d'Eiko Koyama. On a parlé de Power Antoinette, publié chez Doki Doki en 3 tomes, sur une œuvre de, sur un light novel d'Akinosuke Nishiyama et dessiné par Shima. Et on a parlé en toute fin de Ça va aller, Mademoiselle, de Blandine Denis, publié aux éditions Lapin. Dans 15 jours, je vous parlerai, je vous ferai surtout écouter les interviews des différentes rencontres que j'ai pu avoir lors de l'Angers Geek Fest. J'ai notamment rencontré Maliki, j'ai rencontré Connie Davis, j'ai également interviewé le créateur de la des éditions Mao qui fête leur anniversaire là très prochainement. J'ai discuté avec Maliki du jeu vidéo qui sort très prochainement sur Steam et sur Switch. De quoi, qui est-ce que j'ai interviewé d'autre? J'ai interviewé pas mal de gens et je vous ferai découvrir tout ça dans 15 jours. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et puis on se dit dans 15 jours. Et puis en attendant, n'oubliez pas de lire. Il paraît que ça rend intelligent. Bonne soirée à tous.
Ah bah vous avez de la chance parce que moi j'ai appris à lire, je souhaite ça à personne.
Sauvez-vous tous!
Nouvelle urgente. Batman au micro. Avis à tous nos amis. Message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman. Et venons-en au fait.
Kaizoku Oni. Ore wa naru.
Batman. Oh, la petite schtoum.
Trompez vite. Tu n'es pas fait de moi ici.
Justement, les touristes de bord.
Modeler votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
T'es toujours là, toi ? C'est fini. Rentre chez toi.
For a moment there, I thought that we would be alright. I was tired, and you were standing in. So bright, so bright, so bright that I forgot about the dark. It was so bright, so bright, so bright that I forgot. I started to believe in all the stories, 'cause I couldn't.